Alors, ce message que je vais apporter ce matin, ce n'est pas moi qui l'apporte, c'est nous tous, parce que nous sommes tous participants. Et le mot que Dieu a mis sur mon cœur dernièrement, c'est « souviens-toi ». Et c'est quelque chose de très important dans l'époque où laquelle on vit, parce que nous vivons des situations qui peuvent être compliquées. Et ce matin, à travers les chants et le message qui va être apporté maintenant, c'est un temps où on va s'arrêter. On va se souvenir de qui est Dieu et qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Tu peux projeter? Alors, le premier passage, c'est Deutéronome 8, verset 18, qui dit... mes yeux sont un peu trop abîmés, je vais dire. « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a conclue avec ses ancêtres en prêtant serment. » Le premier, souviens-toi, c'est l'histoire de David et Goliath. Pourquoi ? Parce que David, c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est le dernier d'une lignée, en fait, de frères. Et c'est lui que Dieu a choisi pour être le futur roi d'Israël. Et David avait une particularité, c'est que souvent il passait du temps en train de louer et adorer Dieu. Et Dieu avait vu son cœur. Et quand il s'est présenté devant Goliath, bon là j'ai voulu un peu représenter les différentes tailles qu'il peut y avoir entre Goliath et les hommes, c'est que Goliath était grand, très très grand. Et là, c'était la taille d'un soldat israélite, mais David était encore un peu plus petit. Donc la différence de taille était assez grande. C'est comme si on prendrait un bébé à côté de moi. Ça peut paraître terrible pour les gens. Le peuple propre, le pop, pardon, le pop, les soldats israélites avaient peur de cela. Et pas David. Pourquoi ? Parce qu'il aimait l'Éternel. Et David a dit, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le maître de l'univers, au nom de Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. » Et pour moi, David, c'est un exemple qu'on devrait suivre. Parce qu'il ne s'est pas laissé démonter par rapport aux différentes épreuves qu'il a pu avoir qu'ils étaient présents devant lui, avec Goliath. Mais on a essayé de lui faire peur. Son frère Eliab, qui lui a dit qu'il était orgueilleux, parce que Eliab était le frère aîné de David, et normalement, dans ce que Dieu a donné en fait au peuple, le frère aîné était celui qui avait la bénédiction et celui qui était mis à part. Et là, il devait avoir un peu, comme on dit dans la bouteille, un peu être triste, parce que c'est David que Dieu a choisi. Et quand on voit ce que David a accompli, eh ben Eliab en fait a été jaloux de son frère. Il a essayé de l'empêcher d'accomplir ce que Dieu avait mis sur son cœur, à savoir vaincre Goliath. Et aussi, on a essayé de lui mettre une armure qui n'était pas à sa taille et qui n'était pas faite pour lui. Et lui, en fait, il ne s'est pas basé sur ce qu'on a pu lui donner, mais il s'est basé sur ce que Dieu avait mis sur son cœur. Et ça, c'est le chrétien idéal, hein, lorsqu'on a des épreuves, lorsqu'on a des situations, ou quand il y a des épreuves qui sont là devant nous, on y va et on vint, et que peu importe ce qu'on nous dit autour de nous, on réussit. Et ça, c'est dans la vie de rêve, mais dans la vraie vie, ce n'est pas souvent comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on va voir trois points maintenant qui vont nous montrer pourquoi ce n'est pas évident. La première des choses, c'est « souviens-toi du jour du repos ». C'est un moment qui est important pour Dieu. Lorsque Dieu a créé le ciel, la terre, au bout du septième jour, il s'est reposé, il a regardé ce qu'il avait fait en disant que c'était beau. Et dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, nous sommes dans l'activisme en fait. On nous pousse à travailler, on nous pousse à faire des choses, et même est ce qui nous empêche en fait de prendre ce temps avec Dieu. Et ce jour du repos, ça nous permet d'avoir un équilibre entre notre travail et notre vie de famille, notre vie aussi dans l'Église. Et ça nous apporte cet équilibre. Avec mon épouse, ma fille et moi, nous avons décidé il y a quelques années de mettre ça en place, un jour de repos particulier, pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir avoir une communion aussi avec nous, avec ma femme, ma fille, et ainsi avec Dieu, parce que ce n'est pas évident aujourd'hui. Et le dimanche, on peut prendre le dimanche aussi comme jour de repos, mais quand on vient, quand on loue Dieu, bah c'est bien. Mais quand on est au service de Dieu, on ne peut pas en profiter comme ce que les gens en profitent. Et c'est important de prendre un jour du repos. Et j'ai voulu mettre une femme à l'honneur aujourd'hui, bah les dames, parce que bien souvent on parle d'hommes, mais on oublie souvent les femmes, parce que bon, moi je suis d'origine hispanique, et j'ai été élevé d'une certaine façon, où quand l'homme rentre, voilà, c'est fini de mettre les pieds sous la table. Mais bien souvent on oublie que les femmes... La journée, ça ne s'arrête pas au niveau à la journée de travail. C'est qu'après, il y a les enfants, et il y a plein de choses que la femme fait. Et si on ne fait pas ce jour de repos-là, si on ne prend pas du temps, je veux dire, en famille, ensemble, pour solidifier notre couple, notre vie d'église, on peut avoir ceci. Et les enfants aussi, on les oublie souvent, parce qu'à l'école, on dit souvent qu'ils ont pas mal de vacances, mais des fois, ils travaillent plus que nous. Parce que ma fille, quand elle rentre de l'école, elle fait ses devoirs jusqu'à 10, 11 heures du soir, et elle fait ça du lundi au vendredi. Et si elle ne prend pas du temps, eh bien, avoir un impact sur sa vie. Le premier impact, c'est que ça va avoir un impact sur notre famille. Ça peut aussi avoir un impact sur notre vie avec le Seigneur, parce qu'on est fatigué le soir, on a envie de dormir, c'est compliqué. Et on dit souvent « demain, Seigneur ». Et en réalité, ben, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, et ça ne se passe pas comme ça, et on oublie. La vie en communauté aussi. Parce que ben, le travail, ben, c'est le, je veux dire, de tous les jours, c'est un peu embêtant. Et ça peut ouvrir des brèches. Ça peut apporter des divorces. Si, par exemple, on part beaucoup en déplacement, que ce soit l'homme ou la femme, et qu'on peut se laisser subir, ça peut aussi amener la destruction familiale. Si moi, je partais du lundi au vendredi soir, ou même du samedi soir, et venir ici à l'église le dimanche matin, quel temps je passe avec ma famille? Quel temps je passe avec mes frères et sœurs? Et ça peut nous éloigner de Dieu aussi. Donc, le jour du repos, je vous le conseille vivement. Et quand on a fait la première session de la formation, un des thèmes était vraiment le jour du repos. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Et regardez en fait ce qui est marqué ici. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sur le fardeau, je vous donnerai du repos. » Et ça m'a marqué dernièrement, parce que j'ai une collègue qui était surchargée de travail. Et quand je lui ai dit au revoir cette semaine, ben, elle m'a dit qu'elle était en arrêt parce qu'elle avait fait un burn-out. Et aujourd'hui, on n'est pas à l'abri de faire de burn-out, et ça arrive de plus en plus dans le travail. Et vraiment, Dieu m'a mis à cœur, et ça s'est confirmé à travers les formations, qu'il faut absolument mettre un jour de repos pour Dieu, pour pouvoir se ressourcer. Et... moi, j'avais fait un petit calcul à la formation, et j'ai pris le temps que je prenais pour Dieu, en famille, avec l'Église, et il y avait au moins un tiers d'une année scolaire, d'une année civile, en fait, du 1er janvier au 31 décembre, 123 jours exactement, où c'était des temps qu'ils étaient dédiés pour pouvoir me ressourcer en famille, un tiers du temps. Et le reste, dedans, je n'avais pas compté les vacances. Donc plus les vacances, plus les nuits, eh ben, ça nous permet de tenir. Et aujourd'hui, si je n'avais pas mis ça en place pour ma femme, pour ma fille et pour moi-même, je ne serais peut-être pas là, ou j'aurais peut-être quitté l'église aujourd'hui, parce que ça aurait été trop pour moi avec le travail. Souviens-toi qui je suis. Donc ça, c'est la deuxième partie. Et c'est suite à une discussion avec un frère et une sœur, qui m'ont mis en lumière certaines choses importantes. C'est que dans tous les miracles que Jésus a accomplis dans les évangiles, que ce soit la personne qui était lépreuse, que ce soit les personnes qui étaient aveugles, que ce soit des pères de sang et ainsi de suite, ce sont des personnes qui ne pouvaient pas aller au temple et passer un temps en communion fraternelle avec des frères et sœurs. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils étaient éloignés de Dieu. Et ça, c'est pour le temps, bien sûr, des évangiles, mais ça peut nous arriver aussi aujourd'hui. Parce qu'on sait que le voleur est venu pour voler, abattre et détruire, mais moi, je suis venu pour qu'il ait la vie et qu'il ait en abondance. Verset 10. Et aujourd'hui, nous vivons des situations comme ça qui nous éloignent de Dieu. Bien sûr, il y a le péché qui est là et qui nous éloigne de Dieu. Mais une fois qu'on demande pardon, en principe, on peut être de nouveau en présence de Dieu. Mais bien souvent, l'ennemi vient avec la culpabilité et nous accuse de certaines choses. Je me souviens qu'à une époque, quand j'étais jeune dans ma foi, je passais du temps, quand j'étais en déplacement, le soir avec Dieu. Et je priais vraiment fortement, comme un jeune converti. Et j'ai vécu une expérience que j'avais jamais vécue avant. J'avais senti la présence de Dieu physiquement autour de moi. Mais à un moment, j'ai eu peur. J'ai eu des craintes qui s'est venues dans ma vie. Et j'ai pensé que c'était l'ennemi en fait qui était là, et pas la présence de Dieu. Et suite à ça, quelques temps après, en discutant avec des frères et sœurs, ils m'ont fait comprendre une vérité par rapport à ce temps-là. Et j'ai demandé pardon à Dieu. Mais je vivais dans la culpabilité parce que j'ai osé penser, j'ai osé en fait confondre la présence de Dieu avec l'ennemi. Et je m'en suis voulu. Et aujourd'hui, bien souvent, lorsqu'on pêche, on demande pardon, on a du mal à se pardonner en fait, et ça peut nous empêcher, ça peut nous éloigner de Dieu. Et je sais quand Dieu pardonne, il pardonne réellement, et nous, on ne peut pas revenir dessus, et on ne peut pas mettre en doute cela. Mais l'ennemi va toujours venir pour nous apporter de la culpabilité. Et ce matin, je voudrais vraiment qu'on se déculpabilise de des situations qu'on a pu vivre. C'est vrai, on a péché. C'est vrai, on s'est éloigné de Dieu. Mais si on se repent de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, et on change de direction, on lâche nos mauvais penchants, eh ben, on n'a pas besoin de se culpabiliser et on peut être dans la présence de Dieu. Il y a aussi des choses qui sont inexplicables, qui nous arrivent et on ne sait pas pourquoi. Et on ne sait pas pourquoi la maladie elle est venue, pourquoi un être cher a été pris, pourquoi des enfants sont torturés, pourquoi et pourquoi et pourquoi. Et tout ça, ça peut nous éloigner de Dieu. Je ne sais pas si certains ont vu, on a discuté, si vous avez vu le film Miracle du ciel. C'est un film extraordinaire. Parce que c'est basé sur une histoire vraie qui s'est passée. Et je vais vous la raconter parce que ça résume vraiment cela. C'est une famille chrétienne qui allait tous les dimanches à l'église. Ils louaient Dieu, ils priaient Dieu, tout se passait bien dans leur vie. Jusqu'au jour où leur fille tombe malade. Et là, ils ont été voir avec les médecins et ils ne savaient pas ce que c'était. Jusqu'au jour où ils vont voir un spécialiste et ils lui disent que le gros intestin, en fait, ne fonctionnait pas, elle n'arrivait pas à digérer, elle avait tout le temps des aigreurs et tout son œsophage qui était brûlé. Et la sentence du médecin est tombée, c'est qu'elle guérira jamais et qu'il ne pouvait que soigner. Et en tant que parent, et surtout en tant que maman, c'est difficile de voir son enfant souffrir. À tel point que la petite fille, elle a demandé « Maman, je veux mourir, je veux être auprès de Jésus. » Et en tant que parent, c'est difficile d'accepter cela. Et toutes ces situations-là peuvent nous éloigner de Dieu. Et surtout que dans les églises, on est venu, on a osé lui dire que peut-être dans sa famille, ils avaient fait quelque chose de pas bien en fait, et que c'était une malédiction. Et des fois, bien souvent, les gens le font maladroitement. Et cette personne s'est vraiment éloignée complètement de Dieu, elle ne voulait plus aller, parce que la chrétienté, au lieu de la soutenir, au contraire, ça les enfonçait. Et elle a réfuté complètement Dieu, jusqu'au jour où la petite fille grimpe sur un arbre qui était sec et elle tombe dedans. Et là, la maman, elle a plié devant Dieu. Elle ne savait pas ce qui s'est passé, mais elle s'est mise à genoux, elle s'est repentie, elle a demandé la miséricorde de Dieu. Et je veux dire, l'arbre, il ne s'est pas ouvert en deux, la fille, elle est sortie. Non, les pompiers l'ont retirée de là, et la fille, elle était tout le temps, elle était encore malade. Jusqu'au jour où, un matin, la petite fille, elle met son pantalon, et elle arrivait à le fermer, en fait. Ses douleurs étaient complètement disparues, et son intestin refonctionnait. Et la morale de cette histoire, c'est que on peut avoir des situations qui sont difficiles, comme Job, on ne comprend pas tout. Mais je sais que si on est fidèle à Dieu, un jour ou l'autre, on aura les réponses. Peut-être pas aujourd'hui, mais demain peut-être. Et cette femme-là, elle a plié devant Dieu, elle a reconnu qui elle était, qu'elle avait besoin de Dieu dans sa vie. Et Dieu a répondu à sa prière. Et ce qui était beau aussi, c'est qu'il n'y a pas qu'elle en fait. Tous ceux qui l'entouraient ont plié le genou. Ils ont vraiment vécu la communion fraternelle. Et surtout quand on nous dit « prenez les fardeaux les uns les autres, portez-vous ». Je veux dire, Moïse, quand il a eu la victoire avec Josué, ce n'est pas lui tout seul qui l'a eu. C'est parce qu'il y avait des frères qui étaient à côté de lui et qui l'ont soutenu, en fait, les bras levés. Et ils ont eu la victoire. Et c'est important de pouvoir s'entraider les uns les autres. Et ce que je voulais dire, c'est que Jésus, bien sûr, il vient pour guérir, il vient pour libérer, mais surtout, en fait, il vient pour recréer le lien entre le Créateur et sa création. Et ça, c'est quelque chose que l'ennemi ne pourra jamais faire. Il pourra guérir, il pourra faire ce que vous voulez, mais il ne pourra jamais rétablir le lien. Et c'est un point qui est important, c'est de pouvoir rétablir son lien entre nous et Dieu. Et malheureusement, les épreuves de la vie nous éloignent de Dieu. Là, ça va être le dernier point, c'est « Souviens-toi qui tu es ». Souvent, on nous dit d'utiliser les armes qu'on nous donne dans Éphésiens, mais honnêtement, lorsqu'il y a des situations qui sont difficiles, c'est difficile de comprendre ce que c'est mettre le casque du salut. C'est difficile de brandir bouclier de la foi, de mettre les bottines du zèle, parce qu'il y a des situations qui ne nous le permettent pas, en fait. Et Donc là, je vais vous demander un devoir, pas pour aujourd'hui, mais la prochaine fois. C'est de pouvoir vraiment prendre ce temps de lire et de méditer Éphésiens, les deux premiers chapitres, en fait, qui sont à la suite, qui sont avant les armes, en fait, d'Éphésiens 6. Et qui est important, c'est de connaître notre identité. Et c'est la base de tout. Et souvent, l'ennemi nous attaque dans notre identité en disant qu'on n'est pas digne, qu'on n'est pas ci, qu'on n'est pas là, et ça nous met dans des culpabilités et ça nous éloigne de Dieu. J'ai pris des exemples pour que vous puissiez travailler. Par exemple, en lui, il nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des fautes selon la richesse de sa grâce. Et si on prend du temps pour lire, pour méditer, que ce soit tout seul ou en communauté, c'est une force qu'on a. C'est de pouvoir comprendre qui on est devant Dieu. Et le dernier slide qui va apparaître, c'est ce que une jeune demoiselle a compris en méditant Éphésiens 1 et 2. Cette fille, elle a été abandonnée par son père, donc le rejet. Elle a été, sa mère, elle est morte, donc il n'y avait personne qui l'aimait. Elle était malade. Elle avait beaucoup de choses dans sa vie qui n'étaient pas bonnes, en fait. et qui ne lui permettait pas de voir un monde beau pour elle. Et je vais vous lire ce qu'elle a mis. J'ai été créé par Dieu. Il m'a conçu. Quand on a été abandonné, c'est quelque chose de fort. Je ne suis pas une erreur. Et bien souvent, quand il y a des situations qui arrivent, on se pose la question, mais qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que Dieu a un regard sur ma vie? Est-ce que j'ai trouvé grâce à ses yeux? Son fils est mort pour moi pour que je sois pardonné. Est-ce que c'est une réalité dans notre vie? Est-ce que lorsque nous avons demandé pardon, est-ce que nous nous sommes pardonnés? C'est quelque chose de très important. Il m'a choisi. C'est Dieu qui vous a choisi. C'est Dieu qui nous a choisis. Je suis élu. Difficile, hein, quand on a une vie compliquée. Il m'a racheté. Il a donné sa vie pour nous. Difficile de croire que quelqu'un peut donner sa vie. En tant que parent, on donnerait notre vie pour nos enfants, mais un inconnu qui ne connaît pas, qu'on ne connaît pas, va donner sa vie pour nous. Je suis voulu. Difficile, hein? Mais c'est une réalité. Dieu nous a voulu. Il a fait preuve de grâce pour me sauver. Il me promet un avenir car il m'aime. Difficile, hein? Mais c'est une réalité. Et à la fin, je suis enfant de Dieu. Ce que je voulais vraiment vous donner, en fait, ce que j'avais sur mon cœur et ce qui a été le fruit tout à l'heure des louanges, c'est qu'on n'est pas seul, en fait, dans nos situations. Et bien souvent, l'ennemi essaye de nous isoler en nous disant que nous sommes moins que rien, qu'on n'a aucune valeur aux yeux du monde. C'est vrai. Ils ne nous aiment pas. Ils ne veulent plus qu'on parle de Dieu. Et quand j'ai quitté ma boîte vendredi, depuis un certain temps, par rapport à des situations qui étaient difficiles, j'ai commencé à avoir mon cœur endurci. C'était difficile pour moi, par rapport à tout ce que je voyais. Et en discutant avec ma femme, ma fille et d'autres frères et sœurs, ils me disaient que je ne pouvais pas avoir un cœur endurci et que c'était difficile et qu'on ne pouvait pas plaire à Dieu par rapport à ça. Et j'ai reçu une carte à la fin de mon travail où mon responsable a dit « Je suis content en fait des temps spiritueux et spirituels qu'on a eus ensemble. » Où c'était vraiment agréable en fait. Il y avait une confrontation entre ce que moi je pensais et ce que eux pensaient. Et je me suis rendu compte que ils m'appréciaient beaucoup et que j'avais une valeur pour eux. Et lorsque j'ai dû en revoir vendredi, à un moment j'ai dû couper en fait ma caméra parce que le cœur dur que j'avais, en fait, c'était fou. J'avais un cœur tendre en fait et un cœur aimant parce que j'ai commencé à avoir les larmes en fait qui coulaient. Et bien souvent dans les situations que nous vivons, nous avons une image de nous en fait qui peut être pas glorieuse, qui peut nous faire honte et nous culpabiliser devant Dieu. Mais Dieu est grand, et Dieu est bon, et Dieu est rempli d'amour pour nous. Que vous puissiez vraiment vous accrocher à Dieu, que vous puissiez prendre ce temps de repos. Vraiment, je vous encourage à le faire. Dans tout ce que vous avez, dédiez-vous un temps que vous puissiez prendre en famille pour vous ressourcer, et un temps que vous, avec Dieu pour vous souvenir de tout ce que Dieu a fait pour vous. Prenez un temps aussi de relire en fait ce que Jésus, qui il est en fait. De relire toutes les promesses qu'on a pu faire dans votre vie. Toutes les paroles qui ont pu être prononcées. Parce que ce sont des trésors que vous devez garder. Et c'est ce que vous devez garder dans votre cœur et de vraiment à tout faire pour que ça se mette en place. Mais sachez aussi une chose, que si c'est compliqué pour vous, vous pouvez remercier Dieu. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que vous êtes en train de rentrer dans ce que Dieu a prévu pour vous et que l'ennemi, ça, il n'aime pas ça. Il fera tout pour vous démonter. Mais que vous soyez comme David, rempli de zèle, tenir dans ce que Dieu a fait dans votre vie. David a été loin. Vous avez été loin. Vous avez été choisi. Nous avons été choisis pour Dieu, pour accomplir, pour être des lumières sur cette terre. Et c'est important. Alors ne vous laissez pas déstabiliser par l'ennemi. Si vous avez des difficultés dans votre vie, restez pas tout seul. Ne vous les soignez pas de Dieu. Osez dire les choses. Osez. Et les frères et sœurs qui nous entourent, avec qui, par exemple, j'ai parlé, j'ai dit des choses qui étaient intimes, des choses peut-être pas faciles à entendre, mais jamais on m'a jugé, jamais. Au contraire, on m'a toujours encouragé. Mon épouse et ma fille ont été vraiment un pilier pour ma vie, parce qu'aujourd'hui, clairement, peut-être je ne serais pas là parmi vous aujourd'hui, avec la vie que j'ai, avec le travail, ainsi de suite, tout ce que j'ai pu vivre. Mais Dieu est bon. Dieu a de belles choses pour vous. Et si ce n'est pas sur cette terre, ce n'est pas grave. Pensez à votre vie éternelle au ciel. Elle n'est que passagère. Que Dieu puisse vous bénir.